Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps de lire un livre était devenu un acte de résistance? À chaque numéro de ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre d'un auteur qui partage avec nous sa passion de la lecture. Dans cet épisode, mon invité est Elsa Marpeau.
Enfin, j'adore ce métier, je peux pas me féliciter plus que d'être tombée dessus par hasard, tellement c'était, même être derrière un écran et écouter les histoires des autres, je trouve ça absolument, absolument extraordinaire. Et puis c'est vrai que le scénariste, bon, alors il y a beaucoup de scénaristes qui sont très agacés par ça, hein, et je soutiens totalement cette cause, mais le fait d'être complètement dans l'ombre, moi c'est bien.
Si vous ne connaissez pas Elsa Marpeau, vous avez sans doute déjà entendu parler de son personnage le plus célèbre, Capitaine Marlowe, la gendarme déjantée interprétée par Corinne Maziero sur France 3. Scénariste de la série policière la plus populaire du moment, Elsa est aussi une romancière qui œuvre dans l'univers du thriller et du polar depuis une quinzaine d'années. Il y a eu Recherche au sang, Les yeux des morts, Black Bloc, L'expatrié et Ils oublieront la colère. 2 ans après Les corps brisés, elle vient de publier son autre mort, chez Gallimard, dans la célèbre collection Série Noire. C'est l'histoire d'Alex, une mère de famille qui, le jour de ses 40 ans, est agressée par Charles Berryer, le célèbre écrivain qu'elle admire. En voulant se défendre, elle le tue. Au lieu de se dénoncer, elle s'invente alors un personnage pour rapprocher l'entourage du défunt et trouver celui ou celle qui aurait pu commettre le crime à sa place. J'ai retrouvé Elsa chez elle, dans son appartement au cœur de Paris, où elle travaille actuellement à un nouvel épisode de Alexandra L, la série de France 2 avec Julie Depardieu. Bonjour Elsa Marpeau.
Bonjour Jérôme.
Vous allez bien ?
Très bien, merci.
Alors on va se parler un petit peu beaucoup de Son autre mort, votre nouveau thriller.
Okay.
On va parler des précédents, on va parler de télévision aussi, on va parler de tout ce que vous faites, on va parler de romans noirs et d'histoires qui font peur.
Ouais.
Mais avant ça, vous allez répondre à ma question rituelle. Tous mes invités ne peuvent pas y couper. Ils doivent réfléchir, ils doivent plancher quelques instants sur le thème du podcast qui est que les gens qui lisent sont plus heureux que les autres. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Très certainement. Alors, bon, les gens qui lisent, c'est peut-être beaucoup. En tout cas, moi, quand je lis, je suis souvent plus heureuse qu'à d'autres moments. Je vais vous donner une anecdote qui est, par exemple, hier, j'ai commencé à regarder des séries, etc. Plutôt pas mal. Puis j'étais toute seule dans cet appartement dans lequel je vis maintenant. Puis j'ai décidé d'arrêter, de couper. Puis j'ai commencé les mémoires mais un livre écrit par Marc Villard qui raconte un petit peu comment il pourrait être un héros, quoi. Donc c'est des petits récits de sa vie quotidienne mis en lumière avec une imagination héroïque des vies qu'il ne vit pas. Et bon, bah voilà, vous voyez, j'étais en train de rire toute seule dans mon lit, donc ouais, je crois quand même que la littérature, ça peut, à certains moments, rendre heureux, même si les livres que j'ai choisi d'écrire, bon, c'est pas forcément non plus... C'est pas des comédies, hein, on peut dire ça.
Bah, c'est ça qui est plutôt amusant, c'est ça qui est plutôt intéressant à discuter, c'est que vous êtes une spécialiste du noir. Vous aimez ça, vous cultivez ça, que ce soit dans vos romans ou vos scénarios. Est-ce que plus c'est noir, plus c'est sombre, plus vous êtes contente?
Dans l'écriture, j'ai envie de dire que c'était pas un choix. Ça s'est vraiment imposé. Bon, après, en tant que lectrice, pour revenir à votre question initiale, il y a évidemment la littérature qui peut être drôle très directement, comme dans ces récits de Marc Villard, par exemple. Mais la littérature noire, elle peut aussi créer la même chose par la catharsis. Et alors, évidemment, pour les gens qui écrivent, hein, on se doute qu'il y a une vocation cathartique de l'écriture, mais je crois que pour le lecteur, c'est exactement la même chose. Donc je crois que le noir, au contraire, est très, très... J'ai pas envie de dire utile, parce que, bon, la notion d'utilité en littérature, elle est un petit peu, je pense, à côté de la plaque. Néanmoins, il y a quand même quelque chose comme ça, comme Aristote explique la différence entre la tragédie et la comédie. Bon, ben, je crois qu'effectivement, la tragédie et le roman noir sont très utiles en ce qu'ils nous font vivre fantasmatiquement ce qu'on ne va pas aller réaliser dans la rue.
Quand on écrit du noir, c'est parce qu'on a toujours lu du noir et que dès le début, les premiers livres que vous avez aimés, c'était, je sais pas, Agatha Christie ou Hercule Poirot, enfin, c'était des histoires comme ça.
Bah oui et non, c'était pas Agatha Christie, Hercule Poirot, mais par contre c'était Rimbaud, Faulkner, Lautréamont. Alors je crois qu'on peut dire que c'est de la littérature bien plus noire qu'Agatha Christie.
C'est pas forcément les plus joyeux, ouais. Ouais.
Voilà, c'est pas les plus joyeux. Donc oui, moi je suis très très marquée par tout le romantisme noir. Donc c'est pas du polar, hein. C'était pas au départ forcément une culture. Par contre. Ouais, c'est vraiment Nerval, c'était très très fort, moi, dans la construction un peu de mon imaginaire.
Votre imaginaire, vous voulez être construit de lectrice, vous voulez être construit toute seule. Est-ce que vous avez eu des passeurs? Est-ce que vous avez des parents lecteurs qui avaient une pile de livres à
oui.
la maison que vous avez dévoré? Oui, oui, mon,
oui.
Oui, mon capitaine.
Ah bah oui, mon capitaine, oui. Ah bah oui, je suis née avec des parents qui ne faisaient que lire, donc dans une maison qui n'était que couverte de livres, donc je n'ai jamais vu... à quoi pouvaient ressembler nos murs derrière toutes ces piles de livres avec trois épaisseurs. Mon père, il était professeur de français dans le technique et passionné de littérature. Alors lui, passionné de polar aussi et de roman noir, hein, très, très fortement. Et puis ma mère, qui était secrétaire, est passionnée, mais passionnée de littérature japonaise notamment. Donc j'ai eu beaucoup de livres à la maison, il n'y avait aucun interdit, donc il y avait ça, il y avait vraiment, je pouvais tomber sur n'importe quoi, et là, tout était possible. Et puis j'étais fille unique, donc de toute façon, et j'avais pas la télévision, donc c'était, comment dire, c'était l'option unique, c'était les livres, et effectivement, bon, voilà, ça ouvre.
C'est marrant, c'est un monde sans télévision, quand on y pense. Alors aujourd'hui, les gens qui n'ont pas de télévision, moi j'aurais tendance à dire que c'est un peu un truc de bobos parisiens qui veulent se...
Non.
qui veulent se différencier de la masse, mais c'est vrai que beaucoup d'entre nous ont pu grandir sans télévision, ça existait, ça, un monde sans écran, même tout court.
Ah bah oui, alors nous, c'était pas des bobos parisiens, parce qu'on n'était pas bobos et pas parisiens, même si je le suis très certainement devenue, moi. Mais on vivait à Nantes, mes parents, voilà, c'était vraiment une volonté, hein, le fait de pas avoir de télévision. Finalement, ils ont acheté une télévision, mais c'était en noir et blanc quand j'avais 10 ans, puis une télé couleur quand j'avais 15 ans, mais c'était trop tard, en fait, ça m'a... C'était vraiment un moment où j'étais passée à côté. Donc, j'ai pas du tout eu cette culture. Je l'ai rattrapée plus tard, aujourd'hui.
Donc, c'est vrai que aujourd'hui, vous avez un écran.
Aujourd'hui, j'ai un grand écran d'ordinateur. Et je vis devant cet écran parce que je travaille pour cet écran.
Alors, justement, on va en parler. C'est un petit peu votre spécificité aujourd'hui, vous exprimez sur plusieurs supports, on va dire, mais c'est quand même le roman par lequel vous avez commencé.
Oui.
Pourtant, vous n'êtes pas romancière, enfin à la base, qui est romancier ou romancière à la base, je ne sais pas, mais vous, vous étiez plutôt... vous êtes normalienne, c'est ça? Vous avez fait des études supérieures. Vous n'étiez pas partie pour être romancière, vous étiez partie pour faire autre chose, non?
Non, j'étais partie pour être romancière parce que j'avais écrit à 16 ans un roman qu'on peut oublier facilement,
oui.
Qui était même un devoir. Mais non, à 16 ans, j'avais envoyé déjà aux maisons d'édition parisiennes. Vous voyez, ça semblait quand même très très loin, tout ça. Et bah, du coup, je cherchais comment gagner ma vie, parce que quand même, j'avais deux, trois notions que c'était pas si simple hein, de vivre du roman. Et donc, bah, j'ai cherché un petit peu quand même comment je pouvais trouver un métier qui me ferait vivre et qui pourrait me faire écrire des romans. Et donc j'ai commencé par me dire que l'enseignement, ça serait le plus simple. Donc j'ai fait une thèse en art du spectacle. Et puis j'ai été enseignante à la fac pendant 5 ans. Et en fait, j'étais incapable d'enseigner, complètement incapable d'enseigner.
Je crois que je connais cette histoire. En fait, c'était même un peu la panique, je crois,
ouais,
non?
C'est ça, tout à fait. c'était la panique totale. Je suis ce qu'on appelle phobique sociale. Parler devant un auditoire, ça m'est absolument impossible. Je l'ai fait pendant 5 ans, c'était terrible. Enfin, je veux dire, la façon dont ça se passait extérieurement était charmante, les étudiants adorables, très intéressés, mais alors moi, c'était dans ma tête, c'était le grand chaos. Je me souvenais pas de ce qui se passait, j'avais vraiment un blanc total, j'avais des cours de 3 heures à chaque fois, donc c'était quand même très très long, et je sortais, j'étais incapable de savoir ce que j'avais pu dire, tellement j'étais juste habitée par une sorte de panique, quoi.
Donc, c'était l'angoisse totale.
Angoisse totale, ouais. Vraiment.
Et ça, c'est quelque chose qu'on découvre que le jour où on y est confronté, en fait.
Vous aviez des indices. Ouais. Et puis, vraiment, j'y suis allée en traînant des pieds, c'était terrible. Mais en même temps, j'avais très peu d'heures, puisque je me disais, je vais être enseignante-chercheur. J'aurais jamais pu être professeur en collège ou en lycée. Là, je savais que c'était au-delà de mes capacités. Mais je me disais, à la fac, ça va, quoi. Bon, tu vas avoir 10 heures de cours, et puis le reste, ce sera de la recherche. Bon. Et puis, surtout, tu vas t'habituer. Et puis voilà, 3 années sont passées, 4, puis 5, puis en fait l'angoisse est restée exactement au même niveau. Et là, je me suis dit, ça va pas être possible, hein, je vais y laisser ma santé. Donc je prenais des médicaments, des calmants, des antidépresseurs, des somnifères, enfin, pour affronter ces cours. Donc c'était pas jouable en fait. Donc j'ai arrêté, j'ai démissionné de l'éducation nationale et puis j'ai cherché un petit peu ce que je pourrais faire d'autre. C'était pas si simple hein, parce que mes compétences n'intéressaient pas grand monde, si l'on peut dire. Et du coup j'ai commencé à faire une sorte de recherche sur les nouvelles technologies, etc. J'y connaissais strictement rien du tout, enfin terrifiant. Et donc, je n'ai pas persévéré parce que ce que j'ai rendu devait être un peu catastrophique. Et on m'a embauchée pour faire une série jeunesse à ce moment-là parce que j'avais publié un premier livre en 2003. Et c'est grâce à ce livre, en fait, qu'une productrice m'a embauchée sur une série adolescente. Donc, je me suis fait virer au bout de 15 jours, par ailleurs.
Parce que c'est quoi,
connaissais rien. Ouais, j'étais complètement... Pour moi, la télévision, comme je vous l'ai dit, c'était... Je savais pas du tout ce que c'était, donc fallait faire une série jeunesse, donc faut que les gens, y a quand même une notion un peu de divertissement là-dedans, donc ça a été une notion pas très très bien intégrée. Hein. Donc, je faisais des séquences où le personnage qui était Heidi des collines.
Ouais.
Restait sur sa colline et puis elle réfléchissait, elle regardait le jour qui tombait, etc. Bon. Et ça, évidemment, on m'a expliqué que non. Hein.
C'était un peu trop contemplatif pour la télévision française.
Oui. Alors, on m'a plutôt dit que c'était un peu trop chiant. Hein. Ouais, donc, ouais. Je me suis fait virer, mais du coup, j'ai été réembauchée, revirée. Puis finalement, j'ai réussi à comprendre ce qu'on attendait un peu plus.
Oui, parce que ça a plutôt pas trop mal marché.
Finalement. Mais bon, ça fait 15 ans.
Mais alors, donc ça veut dire que finalement, avec une phobie sociale comme ça, écrivain, scénariste, c'est le job idéal, non ? Quelque sorte.
Mais c'est le rêve. Ouais. C'est le rêve. Ah oui.
Vous regardez la vie des gens de loin et exactement. Vous racontez tout dans vos romans. C'est formidable.
C'est formidable. Non, mais franchement, j'ai les deux métiers, deux métiers extraordinaires, hein, je trouve, hein, scénariste. Mais ouais, j'adore ce métier. Je peux pas me féliciter plus que d'être tombée dessus par hasard, tellement. Tellement c'était même être derrière un écran et écouter les histoires des autres, je trouve ça absolument, absolument extraordinaire. Et puis c'est vrai que le scénariste, il y a beaucoup de scénaristes qui sont très agacés par ça, hein, et je soutiens totalement cette cause. Mais le fait d'être complètement dans l'ombre, moi, ça me convient très bien.
Alors malgré tout, aujourd'hui, depuis quelques semaines, il y a un nouveau roman qui s'appelle Sur notre mort qui vient de sortir. Il y a bien vos noms, votre nom écrit en gros dessus. Il y a même un petit bandeau à la créatrice de Capitaine Marlowe pour ceux qui sauraient pas. Alors justement, Elsa Marpeau, c'est pas que la créatrice de Capitaine Marlowe, n'est-ce pas ? Est-ce que ce roman-là, quelque part, c'est aussi une manière de rappeler que oui, vous n'êtes pas que cette créatrice-là ?
Ah oui, oh non, alors pour moi, de toute façon, le fait d'être scénariste, ça venait après les romans. Les romans, c'est la chose nécessaire. Après, c'est vrai qu'il fallait que je trouve un travail et que j'ai trouvé un travail que j'adore. Donc, je suis quand même voilà, très chanceuse. Après, ma nécessité intérieure, c'est d'abord celle de faire des romans. Donc non, je cherche rien à prouver. J'écris ce que j'ai envie d'écrire. J'ai aucune contrainte dans les romans. Donc c'est totalement... je sais pas comment dire, ce qui s'exprime dans les romans, c'est quelque chose de totalement... j'ai envie de dire une sorte de déversoir totalement inconscient, ce qui n'a rien à voir avec le scénario, qui est un exercice aussi beaucoup plus technique. Donc il y a cette dimension technique qui met à distance aussi de son histoire. Et après, il y a aussi une dimension ludique dans le scénario que je n'ai pas forcément dans les romans. Donc pour moi, c'est aussi une récréation.
Et cette dimension ludique, elle est hyper présente dans ce roman-là. Je ne sais pas si c'est une forme de réaction ou de libération par rapport à ce que vous faites à la télévision. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la télé, ça, tous les scénaristes le diront, il y a quand même beaucoup de codes, beaucoup de règles à respecter, ce qu'on appelle des cahiers des charges, qui ne sont pas les mêmes qu'on travaille pour TF1, France Télé, Canal+, M6... ou Netflix, ou que sais-je, comme plateforme qui produit des séries comme il y en a tellement aujourd'hui, il y a toujours des règles à respecter et des gens qui vont intervenir. Ce roman-là, moi, j'ai l'impression que vous êtes mis dans cette idée que tout était possible et que vous alliez voir un peu au fur et à mesure comment ça se passe et que l'imagination n'allait pas avoir de contraintes cette fois-ci. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui assassine un écrivain célèbre et qui va se faire passer pour une autre qu'elle-même pour essayer d'imaginer un scénario alternatif où elle s'en sort et où l'écrivain est tué par quelqu'un d'autre. Et elle avance au fur et à mesure comme ça face à des situations a priori compliquées. Mais vous, j'ai l'impression que vous êtes amusé à la challenger et à aller en permanence vers des situations improbables et en ressortir au gré de votre imagination. Est-ce que ça, ouais, c'est un petit peu une forme de libération. Est-ce que je me trompe un peu sur le processus d'imagination de ce roman?
Alors, tous les romans, je les conçois un peu comme ça. Hein. C'est vraiment, moi, c'est mes espaces de liberté où je fais absolument vraiment ce que je veux. Je donne libre cours à tout ce que je peux imaginer. De plus noir pour les corps brisés, par exemple, alors que celui-ci, en effet, il est beaucoup plus ludique sur... dans son histoire, beaucoup, beaucoup moins noir, mais je m'interdis absolument rien. Et là, c'est inspiré aussi de Patricia Highsmith. Donc, c'est un personnage comme ça, parce qu'elle tue cet écrivain, mais en état de légitime défense. Et effectivement, comme vous l'avez dit, elle invente un scénario alternatif à sa mort. Donc, elle fait une enquête à rebours. Au fur et à mesure. Donc ça, c'est ce qui m'intéressait. C'était plus par rapport au genre lui-même, c'est-à-dire au genre du policier, oui. Où on commence au départ par un crime qu'on va essayer de résoudre. Elle, évidemment, ce crime, elle ne va pas le résoudre puisque c'est elle qui l'a commis. Et du coup, elle va faire une enquête à rebours pour trouver qui d'autre qu'elle, au fond, aurait pu commettre ce crime. À la fois, on est comme elle, on a envie qu'elle s'en sorte... Et puis à la fois, oui, c'est complètement pervers d'essayer de trouver un autre coupable à un crime qu'on a commis soi-même.
Et c'est ça qui est amusant parce qu'effectivement, on est à la fois dans du... Ben, vous l'avez expliqué, elle est agressée par cet homme, donc c'est un moment grave, sombre, hein, qui, ça fait écho à plein de choses dans l'actualité
en ce
moment.
Oui, c'est un viol.
C'est un viol par un personnage célèbre, donc on peut imaginer plein de choses par rapport à des histoires... récente. Et puis en même temps, vous basculez par moments dans des moments purement comiques. Il y a notamment un doigt coupé qui crée pas mal de problèmes. Et ce qui est amusant, c'est que vous mélangez un peu tous les genres et toutes les situations. C'est en ça qu'il est un peu hors cahier des charges, ce roman, non?
Ah oui, moi, la série Nord, on n'a pas un cahier des charges. Donc, effectivement, ah oui, complètement. Il y a une dimension ludique qui est très forte. Je suis d'accord avec l'idée de oui, c'est très sombre, elle manque de se faire violer, et puis... Mais cet événement dramatique, ça va lui amener une forme de légèreté, mais aussi une forme d'aventure qu'elle n'aurait jamais pu vivre autrement. C'est-à-dire que cette femme qui est dans cette vie, qui souffre de phobie sociale, elle aussi, elle a une vie très heureuse, hein, très équilibrée, avec son mari et ses enfants, mais... Néanmoins, cette vie, elle est un petit peu monotone, puis elle se fait violer le jour de ses 40 ans, à l'issue de la fête, où tout le monde a un peu trop bu. Et le livre, c'est une forme de crise de la quarantaine, hein, paroxystique et presque comique, en effet. Hein, voilà, grâce à ce meurtre, en fait, elle va vivre une sacrée crise de la quarantaine qui va lui permettre de devenir quelqu'un d'autre. Elle aussi, évidemment, parce qu'elle va créer une autre mort, mais elle va aussi devenir une autre femme qui va vivre des choses totalement nouvelles. Donc elle va quitter le confort quotidien de son cocon familial pour découvrir quelque chose de beaucoup plus dangereux, mais évidemment de beaucoup plus exaltant aussi, comme on a tous envie de le vivre un petit peu.
Ben c'est ça, en fait. Ce roman, c'est une forme de plaisir coupable
oui,
permanent, en quelque sorte.
Oui, tout à fait.
Et si je m'autorisais ça, et si je m'autorisais... Alors, peut-être pas le meurtre, mais en tout cas, toutes les transformations, toutes les transgressions, ouais. si j'osais, en fait. Et il y a un côté très...
très cathartique.
Très cathartique, hein. Et c'est un roman très... Enfin, c'est un thriller psychologique... mais au sens où l'héroïne vit des choses et ressortira pas tout à fait indemne de son parcours, et quelque part le parcours est plus intéressant que la manière dont elle va s'en sortir.
Bien sûr, tout ce qui compte, c'est son... parce que moi c'est vrai que dans la structure, parce que c'est pas du tout une structure, j'écris pas du tout au fil de la plume, hein. Je sais très bien ce qui va se passer. Ouais. Enfin, la structure, elle est très elle est créée, elle précède, totalement antérieure à l'écriture. Bon, la source d'inspiration, c'était comme ça, de façon très lointaine et presque parodique. C'était Ulysse, un peu, quoi. C'est-à-dire que elle va sortir de chez elle, de ce petit monde un petit peu qui s'appelle Petit Mar, dont les habitants s'appellent des Martiens, qui est la ville de naissance de ma mère, hein, donc totalement.
Ouais.
Mais évidemment, c'est pas du tout un hasard, quoi. Elle vit sur sa planète, complètement enfermée, et puis tout à coup, bah, elle prend le train. À partir du moment où elle prend le train, ça y est, elle laisse tout derrière elle, et au fil des kilomètres, elle se dépouille de tout ce qu'elle était, de tous ses souvenirs, et puis elle va arriver presque vierge, si j'ose dire, à Paris, et à vraiment acquérir une nouvelle personnalité.
Alors, il y a toute cette dimension psychologique du personnage. Il y a aussi une petite satire du monde de l'édition et de l'évolution. Il y a un aspect qui, je pense, qui est inspiré des séries. Il y a cette idée, à un moment donné, donc votre héroïne Alex, elle se transforme en assistante personnelle, hein, de Charles Berryer, cet écrivain.
Ouais.
Et elle a cette idée géniale chez l'éditeur, qui est de vendre ses personnages à la découpe. Et je me suis dit que ça, c'était sans doute très proche de ce qu'on voit dans les films ou les séries. Le paroxysme, hein, c'est avec les personnages Marvel, hein, où chaque personnage a droit à son propre film. Mais on a l'impression de ce côté un peu industriel maintenant de l'édition. La télévision, c'est si industriel que ça, ou c'est quand même, on s'y retrouve en tant qu'auteur?
Alors, bon, il y a deux choses. Je vais reprendre déjà la première partie de ce que vous m'avez dit. Ça me rappelle une question qu'on m'a posée à la radio, en me disant « Ah oui, vous avez inventé cette chose de personnage à la découpe, c'est marrant. » Bon, je ne l'ai pas du tout inventé, hein. C'est effectivement, en tant que scénariste, avec deux producteurs, on est allé rencontrer les gens qui détenaient les droits d'Agatha Christie. Et nous, on voulait faire un Hercule Poirot totalement contemporain. Et donc acquérir les droits d'Hercule Poirot. Et là, alors là, bon, on nous a ri au nez, hein, évidemment,
oui,
en nous
ouais.
disant mais enfin, mes enfants, non, Hercule Poirot, ça va être beaucoup trop cher pour vous. En revanche, il y a chaque personnage, on les a découpés et on les vend maintenant séparément. Alors, ils appelaient pas ça à la découpe, hein, et puis bon, l'échange se passait en anglais, si tant est qu'on ait pu un petit peu s'exprimer en anglais, péniblement. Et donc, on nous a proposé de prendre les droits de... Alors, je pourrais même pas citer le nom, parce que quelque chose du style le colonel Diamond... personne ne connaît, qui apparaît à la page 23.
Mais qui est à vendre.
Mais qui est à vendre. Et que nous, petits Français, pourrions plus acquérir.
Formidable.
Poirot. Et donc cette idée, alors là, on est sortis, on se dit, bah, bon, alors non, hein, les droits du colonel Diamond, on va pas les acquérir, désolé. Mais du coup, j'ai gardé effectivement cette idée dans le livre. Et pour répondre à la deuxième partie, je dirais que pour le moment, la télévision française est... Alors, presque parfois, l'édition, dans le cas des best-sellers, est beaucoup plus, au contraire, une entreprise capitaliste. À la télévision française, non. Non, on n'en est pas là encore, je pense. On est vraiment dans un moment où la télévision française se dit que peut-être, elle aussi, elle pourrait faire des choses intéressantes. Elle en est à un moment que je trouve assez touchant et assez intéressant quand on est scénariste. C'est vraiment le moment où tout le monde se regarde parce que les œuvres de télévision, c'est des œuvres collectives. On se regarde tous en se disant « Ouais, peut-être, en fait, nous aussi, qu'on peut faire des choses valables. » Comme si on n'en était pas encore complètement sûr. Donc je trouve que la télévision française, moi ce que j'aime, c'est qu'elle n'a pas d'arrogance du tout. Pas encore, peut-être qu'elle en aura, mais en tout cas, pour le moment, je trouve qu'il n'y a aucune arrogance. Et donc il n'y a pas non plus ce côté on va vendre des personnages à la découpe. On n'en est pas du tout dans cet état-là.
Ce qui est amusant, à chaque fois qu'on parle du succès de Capitaine Marlowe, on va reparler un peu du personnage, c'est que beaucoup de confrères et beaucoup de gens du métier ont l'air d'être surpris du triomphe de chaque épisode, comme si... alors je rappelle, hein, c'est plus de 7 millions de téléspectateurs à chaque épisode, c'est complètement... Aucune autre série en France ne fait ça, même américaine, et aucune autre série française n'a un tel niveau à chaque diffusion, même les rediffusions sont au-delà des 5 millions, et à chaque fois on a l'impression que c'est un peu un accident industriel, personne ne comprend. Est-ce que c'est aussi justement lié à ça, un peu sur finalement d'avoir créé ce personnage et cette série sans trop d'arrière-pensée?
Alors ça c'est pour le moins sûr, c'est-à-dire que cette série, elle n'a pas été créée comme une série déjà. C'est-à-dire que le personnage de Capitaine Marlowe, moi je l'ai créé pour un téléfilm de José Dayan. Donc elle m'avait demandé de rééquilibrer un téléfilm qui était en 2 fois 90 minutes. Et comme moi je sais faire que du polar, j'ai créé un personnage de policier, enfin de gendarme. Et ce personnage de gendarme, il était totalement vraiment secondaire, quoi. Moi, il me permettait de restructurer les épisodes, mais on n'est pas du tout parti sur une idée de série, enfin, du tout. Donc évidemment, alors, sur une idée d'un succès, là, alors là, vraiment, encore moins. Et c'est parce que la directrice des programmes de France 3 a vu le personnage incarné par Corinne Maziero, qu'elle a dit, tiens, dites-moi, ce personnage-là, pas mal, hein, si on faisait un pilote. Et donc, on a fait un pilote, c'est-à-dire un premier épisode, mais point, enfin, c'était vraiment... Oui, c'était sans arrière-pensée. Et par ailleurs, parce que c'était José Dayan, on a bénéficié d'une liberté vraiment totale.
Oui, parce que c'est un personnage un peu intraitable, hein, José Dayan. Dans le milieu, on sait qu'elle fait que ce qu'elle veut.
Alors exactement, elle fait ce qu'elle veut, toujours. Et elle défend beaucoup... quand on est scénariste, c'est agréable de travailler avec elle parce que... si elle est d'accord avec l'idée du texte, elle n'est pas du tout interventionniste dans les textes. Et si elle est d'accord avec l'idée, elle va se battre jusqu'au bout. Ça, c'est évident. Mais de toute façon, la question n'était pas là, parce qu'il n'y a jamais eu même de bras de fer ou de tension du tout avec la chaîne. Parce qu'elle arrive aussi, José Dayan, forte de sa notoriété, forte de grands succès. Donc, elle a eu un peu carte blanche. Et donc, comme moi, elle me laissait carte blanche pour écrire ce que je voulais, j'ai eu carte blanche, en tout cas pour les deux premiers épisodes que j'ai écrits. Donc ça, c'était une grande joie, parce qu'au début, moi, je lui faisais dire des conneries, des trucs un peu anards par moment, etc. Et il n'y avait aucun problème, jamais. Jamais on a essayé de nous censurer.
Ce sens de l'humour et ces références permanentes dans les dialogues, c'est un mélange entre vous, José Dayan et la comédienne Corinne Maziero, ou tout vient de vous au départ?
Dans le premier épisode, c'est moi qui l'écris. José Dayan, encore une fois, elle crée la mise en scène, elle intervient énormément, évidemment. Enfin, pas énormément, totalement dans le choix des acteurs. C'est elle qui décide absolument, et c'est évidemment une raison du succès qui est totalement déterminante. Dans le premier épisode, évidemment, un texte, ça s'écrit, c'est écrit au départ. Après, je dirais que Corinne Maziero, d'abord, il s'est passé une chose rare, qui est que l'actrice a rencontré un personnage. Ça, c'est vraiment... Ça arrive. Mais à ce point-là, c'est très étrange. C'est-à-dire que moi, quand je l'ai vu la première fois dans ce téléfilm, j'ai eu vraiment... À un moment, je me suis dit, ah oui, mais c'est elle. C'était très, je sais pas, quelque chose de l'ordre de l'alchimie. Donc c'était étonnant. Maintenant, évidemment, Corinne Maziro, elle prend de plus en plus de liberté avec les textes. Alors, moi, j'écris plus trop les épisodes. Il m'est beaucoup arrivé de les réécrire, de les relire, de les réécrire. Mais après, j'écrivais plus trop d'épisodes en entier. Voilà, j'ai laissé la main à d'autres gens, parce que c'est vrai que c'est marrant de lancer quelque chose, mais bon, après, on
est... Et c'est un peu frustrant, vous avez l'impression que votre personnage vous échappe?
Ah ben non, alors...
Oui ou non? Un peu des deux.
Alors, c'est à la fois... Non, alors, d'abord, c'est jouissif. C'est-à-dire que si j'avais voulu qu'il ne m'échappe pas, j'aurais continué à écrire autant d'épisodes
non-stop,
que je pouvais. Et en fait, bah non, c'est génial. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super d'en écrire deux. Puis après, bon, j'avais peut-être moins d'amusement, on va dire. Après, il y en a un que je tenais à écrire parce qu'il était très lié à l'histoire de Marlowe, qui était un épisode sur une histoire de sosie. Donc là, c'était vraiment lié à son enfance. Donc ça, je tenais beaucoup à l'écrire.
Il est très bien, celui-là. Voilà, il est très étonnant. Hein.
Ouais. Celui-là, voilà, ouais, ouais. Pour moi, je crois pas que je l'aurais laissé. Maintenant, alors au contraire, je trouve ça absolument génial. Parfois, je regarde des moments où Corinne Maziro improvise et où elle fait des blagues, où je me dis... Et donc, il y a des moments où je me dis, mon Dieu, comme c'est drôle. Il y a d'autres moments où je me dis... quand même, elle va jusque là. Et je sais pas, ça c'est vraiment quelque chose, pour moi c'est très naturel de laisser, que ce soit les livres ou les scénarios, après ils appartiennent au lecteur quand c'est un livre, au spectateur, au comédien, ça me dérange pas du tout. Après j'ai juste je veux juste rappeler que les textes ils sont écrits par des scénaristes d'abord. Et c'est vrai que sur cette série, on dit beaucoup « oui, c'est que de l'improvisation, etc. » Alors, non. Hein. 1h30 de scénario, c'est pas de l'improvisation. Et évidemment, il y a beaucoup d'improvisation dans un dialogue, mais un scénario, c'est évidemment énormément plus qu'un dialogue. C'est-à-dire, on peut dire qu'on est scénariste le jour où on se met devant un écran qui est totalement blanc. Et là, on commence et on dit « bon, ben, je vais faire le résumé d'une histoire ». Puis après le résumé d'une histoire, je vais développer le résumé de cette histoire. Puis je vais faire des séquences. Et à partir de cette séquence seulement, je vais commencer à faire des dialogues. Puis quand ils seront installés, je vais essayer de les améliorer. Mais donc, on est scénariste quand on écrit à partir d'une feuille blanche.
C'est deux boulots très, très distincts dans votre tête, Elsa, scénariste et écrivain.
Alors, j'ai envie de dire de moins en moins. Au début, totalement. Pour moi, c'était complètement différent. L'imaginaire n'est pas du tout le même et ce qui se met en place n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que, comme je vous disais, ce qui se met en place pour les romans, c'est vraiment quelque chose qui m'échappe. C'est tout ce qui m'échappe. C'est-à-dire que parfois, on me dit « Ah, bah tiens, vous parlez toujours de telle thématique. » J'en suis la première surprise. C'est-à-dire, je me dis « Ah oui, ah bah oui, c'est vrai. Bon, ok. Les corps découpés, tout ça. » Et puis, au fur et à mesure que je m'en... Au début, le scénario, voilà, ce que je me disais c'est un métier, puis en fait, je me suis totalement prise au jeu, c'est-à-dire que je trouve que c'est un métier vraiment extraordinaire, et donc maintenant, je me prends tellement au jeu, et puis je travaille avec des gens aussi qui me laissent faire des choses de plus en plus personnelles. Et du coup, non, je crois qu'il y a de moins en moins de distance. Après, j'ai lancé une autre série pour France 3 sur une médecin légiste.
Alexandra L.
Voilà, ouais. Comme vous le savez.
Avec Julie Depardieu.
Avec Julie Depardieu, qui est une série... à laquelle je suis extrêmement attachée, on retrouve la même obsession que dans Les corps brisés, c'est les corps qu'on ouvre. Alors le traitement n'est pas le même, c'est très léger, Alexandra L., j'espère c'est un peu drôle, un peu distrayant. Mais
il y a aussi une comédienne qui a rencontré le personnage. Hein.
Ah bah oui, oui.
Même si au départ, ce n'était pas forcément celle que vous aviez en tête.
Tout à fait, exactement. Alors elle, ça ne fait pas du tout partie. Quand j'ai vu Corinne Maziero dans le rôle, je me suis dit, ça va entièrement avec ce
Marlowe,
rôle.
Ouais.
Voilà, c'est ça que j'avais imaginé. Avec Julie Depardieu, je me suis dit « Ah non, c'est pas du tout ça que j'avais imaginé. Ben, c'est sans doute mieux que ce que j'avais imaginé. » C'est vraiment une dynamique totalement différente. J'ai été surprise. J'imaginais quelqu'un, au début, j'avais imaginé quelqu'un de très froid, de très cartésien, un peu inspiré d'une sorte de Sherlock Holmes féminine. Et puis Julie Depardieu, elle a amené une sorte d'une sensibilité extrêmement forte. Et évidemment, ça fonctionne mieux, en fait. Mais du coup, bon, maintenant, j'écris pour Julie Depardieu. Mmh. Je sais pour qui j'écris, je sais comment elle va le dire, comment ça va se créer. En tout cas, c'est elle que j'imagine en écrivant.
Et alors, quand on écrit sur notre mort, est-ce qu'on a une comédienne en tête? Ou alors est-ce que...
Oh, non,
en fait, vu que c'est totalement autobiographique, c'est vous. Non, mais je sais pas. Est-ce que vous y avez pensé, je suis sûr.
Alors, non. Alors, une comédienne, non, je dois avouer. Alors, pas du tout. À ce qu'il y ait des dimensions autobiographiques, bon, là, je mentirais si je disais que non. Ce qu'il y en a. Pour autant, non, j'imaginais pas du tout les traits de Alex comme les miens, mais non, c'est... Non, non. Non, non, je pourrais y réfléchir, mais en tout cas, c'était pas du tout... Non, j'y ai pas du tout réfléchi.
Parce que c'est quand même aussi une des beautés du roman. C'est, moi, quand un roman est adapté en film ou en série, j'ai plus du tout envie de lire le roman, parce que mon imaginaire est un prisonnier du comédien ou des comédiennes, de l'incarnation. Ce roman-là... je recommande aux gens de le lire avant qu'il soit éventuellement adapté un jour, parce que je trouve que c'est un roman qui parle à chacun d'entre nous, en fait, de manière très intime. Même si c'est une femme de 40 ans, l'héroïne, je pense que chaque lecteur va d'abord se l'approprier, et peut-être pas se dire qu'en fait, il ou le lecteur ou la lectrice se dire « je suis Alex », en fait.
Oui.
C'est la beauté du truc, non?
Ah ben oui, moi je crois. Enfin, en tant que lectrice, c'est exactement ce qui se passe. Moi, quand je lis I. Smith, Monsieur Ripley, l'incroyable Monsieur Ripley, c'est moi, même si c'est un homme et même s'il est beaucoup plus jeune. Alex, effectivement, elle a exactement... c'est un personnage, au départ, totalement banal. Enfin, elle s'inspire de ma vie qui est totalement banale. Enfin, qui est... si tant est que les gens vivent enfermés chez eux... comme je le fais, mais...
Il n'y a pas... On est dans votre salon cuisine. Il n'y a pas un doigt coupé dans votre frigo. Si je vais regarder, là, tout de suite...
N'allez pas regarder.
Et là, vous ne savez pas, c'est qu'elle se jette sur le frigo pour m'empêcher de l'ouvrir.
C'est exactement ça. Non, il vaut mieux jamais savoir, ça, toutes ces petites choses. Mais a priori, si j'écris, ça me permet... on pourrait éventuellement trouver ici des choses... des tasers, des points américains, des choses comme ça. Donc c'est pour ça que c'est pas la peine d'aller vraiment fouiller.
D'accord.
Mais le fait d'écrire son...
L'écrivain de roman policier a du... Donc l'écrivain de roman policier a du matériel pour tuer chez lui.
Alors pour tuer, n'exagérons rien.
Pour faire mal. Pour kidnapper. S'il y a des cordes chez vous pour attacher.
Non, pour se défendre.
Pour se défendre,
comme,
oui.
Comme mon personnage.
Oui.
Bon, évidemment, là, comme je sors pas, je me défends pas contre grand monde, mais... Ils sont là quand même, hein. Donc non, n'allez pas fouiller. Mais le livre me permet par contre d'éviter de passer à l'acte.
Ok.
je suis
rassuré. Il y a une dimension très forte dans le roman, c'est la présence des réseaux sociaux.
Oui.
Moi, les réseaux sociaux, ils sont à l'origine de la création de ce podcast. Je me suis dit, il faut que j'arrête de passer mon temps à lire des tweets, à écouter, à suivre des clashs, voire même à y participer pour m'énerver. Il faut que j'arrête, il faut que je relise à nouveau des livres, il faut que je reprenne le temps de lire des livres. Pas que pour mon travail, mais pour mon plaisir. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans le monde de 2018, 2019, 2020, et plus ça va, plus c'est être un résistant, une résistante de lire des livres. Est-ce que vous êtes un peu comme ça, à la merci des réseaux sociaux, ou est-ce que vous savez vous en préserver ?
Les deux, je dirais. Déjà, je considère que quand même, les réseaux sociaux, il y a aussi une charge d'imaginaire très forte, hein, puisque sur un réseau social, ce qu'on disait au début d'Internet, on disait sur Internet, tous les chats sont gris. À savoir, on ne sait pas qui est derrière l'écran. Donc ça permet de donner aussi de beaucoup d'imaginaire, une grande charge d'imaginaire. Donc moi, c'est aussi une source d'inspiration. Je regarde les réseaux sociaux tous les jours, etc. Pour autant, alors moi, je ne suis pas du tout accro, c'est-à-dire que bon, ça m'a beaucoup intéressée au début, mais comme je vais être honnête, comme j'ai regardé Love Story, j'étais fascinée par Love Story, cette expérience avec ces petits rats de laboratoire en train de courir là dans une maison fermée, j'ai trouvé ça absolument génial. Les réseaux sociaux, ça m'a beaucoup intéressée au début. Bon, maintenant, Je suis pas accro parce que je m'ennuie souvent. Après, parfois, il y a quelques petits moments amusants. Par exemple, l'affaire de Mehdi Mehklat qui a donné le...
T'as inspiré une partie,
qui a inspiré une partie du livre. Donc, ce jeune blogueur du Bondy Blog qui tweetait sous un pseudo des choses absolument abominables et qui, pour se défendre, a expliqué qu'en fait, c'était son double maléfique qui tweetait, Marcelin Deschamps.
Oui, c'est ça.
Et donc, du coup, oui, c'est très inspiré de cette histoire. Et le fait de créer le double maléfique, en plus Marcelin Deschamps, donc on a quand même l'idée vraiment de la création très forte aussi. Je trouve ça une excuse hypocrite, mais à la fois qui est un objet littéraire aussi. Je trouve ça intéressant pour la littérature. Donc, j'ai pas de... Effectivement, les gens lisent moins à cause des réseaux sociaux, ça c'est une évidence. Hein. Les gens lisent moins à chaque fois qu'on va dans une librairie, qu'on va chez un éditeur, ils nous expliquent que ça chute de 30%. C'est vraiment très très violent. Hein. Oui, j'ai l'impression que c'est une marche là qui a l'air un peu inéluctable. Moi, ça m'attriste pour les gens, parce que, comme on disait au début, moi ça me crée tellement de plaisir de lire. Que je suis un peu déçue que tout le monde ne partage pas ce plaisir-là.
Et qu'il ne faudrait pas que le livre devienne un produit de luxe, en fait.
Bah, de luxe, ou qu'il disparaisse, ou qu'il disparaisse tout simplement. Ouais. Ouais,
non, mais le privilège d'une élite,
oui,
ou d'une partie de la population qui sait prendre son temps, ou qui a le droit de prendre son temps, ou qui peut se le permettre. Alors
oui.
Que pendant longtemps, le livre a été un peu le moyen de distraction... Le moins cher et le plus accessible à tous.
C'est sûr. Et ça reste d'ailleurs quand même pas si cher que ça. Faut pas non plus... faut pas exagérer. Après, c'est vrai, je suis d'accord. Moi, c'est pour ça que je tiens beaucoup au polar, par exemple, à écrire dans une collection noire. C'est spécifiquement pour ça. Parce que de la même façon que... Pour l'instant, je préfère écrire pour la télévision que pour le cinéma. Bah, je préfère écrire pour le polar que pour le roman blanc, traditionnel, on va dire. Parce que bah, je trouve ça...
Parce qu'il y a des lecteurs, en fait.
C'est important d'être là où... Mais c'est même pas ça. C'est vraiment l'idée qu'il faut aussi créer un divertissement. Je trouve ça pas du tout... Enfin, alors moi qui viens d'un milieu extrêmement élitiste, les intello, je tiens beaucoup à cette forme du policier, à cette forme de la télévision. Je la trouve au fait que Marlowe, ça soit populaire, parce que y a des gens qui me l'ont dit avec le nez pincé, quoi, en me disant « Oh là là, dis donc, tu fais un truc populaire, t'as pas envie un peu de faire des choses sérieuses là pour changer un peu ?» Et non, j'y tiens, enfin au contraire.
Tu passeras à la grande librairie.
C'est ça, enfin. Et... non, j'y tiens vraiment à l'idée d'être dans une forme de littérature ou de divertissement populaire. Pour moi, c'est pas du tout, c'est pas un gros mot.
Ben non, je suis tout à fait d'accord, Elsa. Merci beaucoup pour ce moment autour de ce nouveau livre et puis de la passion de la lecture. J'espère que ça encouragera des gens à vous découvrir et puis à lire tout simplement. Ouais. À se faire plaisir.
C'est ça, c'est un immense plaisir, il ne faut pas s'en passer.
Merci Elsa, à bientôt.
Merci, à très bientôt.
C'est la fin de ce podcast, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des gens qui lisent sont plus heureux. D'ici là, n'hésitez pas à le liker, le partager sur vos réseaux sociaux et vous y abonner sur votre plateforme préférée. D'ici là, à bientôt et bonne lecture.